The F Club. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin F1. Je suis votre animateur Abdou Sal et ceci est l'épisode numéro 18, aussi appelé l'épisode Lance Stroll. Le pilote québécois est en Formule 1 depuis 2017. Il a disputé deux saisons avec Williams avant de faire le saut avec son père chez Racing Point, anciennement appelé Force India. Depuis 2017, Stroll a un podium, inscrit lors de son année recrue, avec une magnifique troisième place lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, où il se fait dépasser dans les derniers mètres par Valtteri Bottas. En plus de cela, il réussit à se qualifier, en fait à partir de la première ligne de départ aux côtés de Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Italie 2017, où il devient le plus jeune pilote à réaliser un tel exploit. Malgré une saison 2018 un peu plus difficile, il se rend chez Racing Point où, malgré des qualifications très difficiles, il parvient quand même à marquer 18 points, dont une belle quatrième place lors du Grand Prix d'Allemagne, où il est passé proche de monter sur le podium pour une deuxième fois, mais au moins il aura mené le Grand Prix pendant quelques secondes. On dit qu'il est en Formule 1 à cause de son argent, mais il a connu une carrière junior assez exceptionnelle. Il a remporté en 2014 le championnat italien de Formule 4, en 2015 il a remporté la Toyota Racing Series, et en 2016 il a dominé la saison de Formule 3 européenne. Il était même un pilote de l'Académie Ferrari jusqu'en 2015 ou en 2016. En plus de cela, il a participé à deux reprises aux 24 heures de Daytona, où il a terminé 5e en 2016 avec Chip Ganassi Racing Ford, aux côtés de pilotes assez populaires mais aussi très bons en endurance comme Alexander Vogts, Brandon Hartley et Andy Priot. Au menu cette semaine, on parle de la possibilité d'avoir une nouvelle équipe en Formule 1 dès 2021. On parle aussi de McLaren qui s'en va en IndyCar en 2020. Et on fait le tour du marché des transferts pour la saison 2020. Pour cette semaine, je serai tout seul vu que Brian Ouimet et Marc-André Fortin sont occupés en ce moment. Mais ils seront là la semaine prochaine pour revenir sur le Grand Prix de Belgique. Mais avant tout, je dois vous dire que oui, on avait l'épisode 16 qui était le bilan de mi-saison et qu'on passe à l'épisode 18, c'est parce que on veut garder l'épisode 17 pour une date ultérieure, vu que comme c'était le numéro de course d'un certain Joe Bianchi, on a décidé de faire les choses en grand et de lui dédier un épisode digne de son nom. De ce nom et de son nom. Donc, surveillez nos comptes Twitter et Facebook où on va faire l'annonce lorsqu'on va enregistrer l'épisode spécial sur Jules Bianchi, parce que ça vaut la peine. Mais en attendant, on va tout de suite revenir sur le vif du sujet de l'actualité au cours de la dernière semaine et un peu même des deux dernières semaines. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. Commençons tout de suite avec notre premier sujet, qui est la création possible d'une nouvelle équipe en Formule 1 d'ici la saison 2021. Selon le site RaceFans, une nouvelle écurie pourrait arriver en Formule 1 dans 2 ans. Le nom, Pantera Team Asia Formule 1, avec déjà quelques noms qui sont très connus dans le milieu de la course automobile qui pourraient s'impliquer dans le projet. Pantera Team Asia F1 aurait des quartiers proches du circuit de Silverstone, comme quelques écuries dont Racing Point justement sont établies. Mais cette écurie roulerait avec la nationalité chinoise. Et pourtant, derrière ce projet, on va retrouver l'ex-directeur général de SMP Racing qui participait au championnat du monde d'endurance de la FIA jusqu'à la saison dernière, le français Benjamin Durand. Le nom a été créé, en fait, la société Pantera Team Asia Limited a été créée le 28 janvier 2019 et le siège social se trouverait à Londres. L'associé de Durand serait Michael Holtz, un homme d'affaires et un avocat qui s'était déjà associé à un projet d'une autre équipe chinoise du nom de China F1 Racing qui avait vu le jour en 2017, mais le projet ne fut jamais suite. C'est pas la première fois d'ailleurs, puisque il y avait une autre équipe aussi qui voulait faire apparition dans le domaine de la Formule 1 du nom de China F1 Team. C'est un peu plus différent. Puis qui avait même créé un compte Twitter du nom de China F1 Team. Mais depuis, on n'a rien entendu. Si on connaît déjà le nom du Big Boss, Benjamin Durand, ainsi que son partenaire d'affaires, Michael Holtz, on connaîtrait déjà le nom du responsable du département technique. Et le nom qui sortirait serait Tim Milne, qui a travaillé pour Renault, Honda, Super Aguri, Toyota, KTM et très récemment Manu. C'est lui qui était responsable de la voiture qui allait participer, en fait de la Manu qui devait participer à la saison 2017 avant que l'équipe ne ferme définitivement ses portes, devrais-je dire. Et là, la question qu'on se pose, c'est à savoir, est-ce que l'équipe sera vraiment prête pour 2021? Parce que, avec les nombreuses discussions qu'il y a autour des règlements techniques, c'est une inconnue, parce qu'on ne sait pas à quoi vont ressembler les règles de 2021. On a vu un modèle réduit de ce que pourrait ressembler la Formule 1 dans deux saisons. Mais tout ce qu'il y a à l'intérieur, comment elle va être régulée, tout ça, ça reste un gros vide. On peut pas définir la conception de la monoplace. Puis en plus, on sait que construire une Formule 1, ça prend du temps parce que c'est beaucoup de conception par ordinateur, c'est beaucoup de pensée, de tests et tout. Donc, arriver lors du premier Grand Prix de la saison en 2021, qui serait probablement en mars, mais encore là, lors des premiers essais pré-saison, il faudrait que ce soit rapide. Et heureusement pour la nouvelle équipe Pantera, elle pourrait adopter le même modèle économique que Haas, la dernière nouvelle équipe en Formule 1 qui est arrivée en 2016. C'est-à-dire de faire affaire à des sous-traitants, on va dire, des compagnies tierces externes, comme ce fut le cas à Haas. Le châssis n'a pas été créé par l'équipe elle-même, elle a été conçue par Dallara. Donc c'est un moyen, disons, de sauver de l'argent et de faire en sorte de pouvoir subsister pour les prochaines saisons. La candidature n'a pas encore fait part de ses intentions, donc on ne sait pas encore si c'est juste un projet ou si c'est vraiment dans la volonté d'être la 11e équipe. Mais évidemment, il faut attendre que les règlements sortent, donc d'ici la fin du mois d'octobre, quand ils seront officiellement ratifiés, parce que il faut le rappeler, normalement les règlements devaient être ratifiés à la fin du mois de juin, vu que selon les règles de la FIA, pour un nouvel accord, il faut minimum un mois et demi pour ratifier le tout. Mais comme tous les partis de la Formule 1 ne sont pas d'accord, donc c'est-à-dire les écuries ne sont pas d'accord quant aux règles proposées, On ne sait pas encore à quoi va ressembler la F1 de 2021 en général. Comme je l'ai dit, on a déjà vu à quoi ressemble la voiture, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va être généré autour. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, le projet, en fait, Pantera Asian F1 Team reste une rumeur, parce qu'on ne sait pas si ça va continuer. Et quand je parlais des règles de 2021, oui, il y a les règlements techniques, mais aussi les règlements financiers, puisque ce qui est chose sûre, c'est que nous aurons un budget, un cap salarial, donc des budgets plafonnés, ce qui veut dire que les écuries ne vont pas dépenser un certain nombre de millions de dollars. Donc, ce qui pourrait bénéficier grandement les petites écuries, mais aussi la création l'ajout d'une 11e ou 12e équipe. Comme ça, la distribution des revenus engendrés par la Formule 1 au cours de l'année pourrait être bien équitable, plus équitable que ce qu'on a actuellement, où ce sont les grosses équipes qui ont la plus grosse part de la tarte, et Ferrari qui a un supplément parce que c'est une équipe qui est là depuis 1950, depuis les débuts de la Formule 1. Et on veut éviter aussi la même situation qui s'est passée avec Caterham, España Racing Team et Virgin, qui est devenu Marussia Manor par la suite. Bref, ces trois équipes sont arrivées en Formule 1 en 2010 et aujourd'hui elles n'existent plus parce qu'elles ont eu du mal à subvenir à leurs besoins, parce que non seulement ça commençait à coûter trop cher pour eux, mais ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Virgin / Marussia / Manor a pu exister grâce à la 9e place de Jules Bianchi lors du Grand Prix de Monaco 2014, parce que l'équipe a battu Sauber qui n'a marqué aucun point, et finir dans le top 10 est synonyme d'argent. Je pense qu'ils avaient gagné des dizaines de millions de dollars, et c'est ce qui leur a permis et c'est ce qui a permis à Marussia de rester en Formule 1 jusqu'en 2016 à la limite. Donc, sous le nom de Manor. Donc, on veut éviter que des équipes comme les Caterham, HRT, Virgin / Marussia / Manor décident de fermer boutique après quelques saisons, qu'elles puissent rester en Formule 1 pour des dizaines d'années. Alors, l'effet d'un plafond salarial, le fait qu'on décide d'imposer une limite, va permettre justement à ces équipes de pouvoir concevoir une voiture avec des pièces standardisées, avec des pièces de qualité, à bon prix évidemment, et de pouvoir aussi recevoir de l'argent de manière équitable. Donc, le fait d'ajouter une ou deux équipes pourrait être bénéfique autant pour la Formule 1 que pour les équipes elles-mêmes. C'est évident. Est-ce que Pantera sera la 11e ou la 10e équipe sur la grille? Parce qu'il y a une des 10 équipes actuelles qui est en sérieux questionnement pour 2021. C'est Haas, qui est justement la plus jeune équipe du plateau actuellement. Parce que l'équipe connaît une saison actuellement vraiment compliquée. Il y a la saga Rich Energy qui est leur sponsor titre qui fout le bordel dans l'univers de la Formule 1. Il y a un développement complètement raté de la monoplace actuelle. Pourtant, l'équipe est en constante progresse énormément. Et là, vous avez les contrats de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen. Bon, Magnussen, je pense qu'on sait qu'il va revenir en 2020, mais est-ce qu'on garde Grosjean pour aller avec quelqu'un d'autre? Et là, en piste, ça va pas très bien, les deux qui se chamaillent en piste, et ça coûte cher. Je vous rappelle, comme je l'ai dit en introduction, l'équipe a un modèle économique très différent des autres. C'est Dallara qui construit le châssis de la Haas. Ils ont beaucoup de pièces Ferrari. C'est d'où d'ailleurs vient l'expression de plusieurs patrons qui disaient que Haas est en fait une Ferrari B. Parce qu'il y a des pièces, il y a des boîtes de vitesse, là, il y a boîte de vitesse, il y a le moteur qui sont en fait de marque Ferrari, oui. Alors, mais le développement coûte énormément cher, donc, et en plus, Rich Energy ne paye vraiment pas l'équipe, donc, si l'équipe continue de dépenser beaucoup plus qu'elle reçoit de l'argent, c'est sûr que 2021, ben, ça se peut que Haas décide de regarder ailleurs. Surtout que là, ils sont Haas, l'entité Haas est en NASCAR en plus de cela. Donc, là, et la raison pour laquelle Jean Haas a intégré la Formule 1, c'était justement pour faire la promotion de ces outils de machinerie un peu partout dans le monde. Donc, si jamais faire la promotion devient plus cher, ça lui fait faire plus de dépenses, ben là, autant arrêter là puis de trouver une autre solution. Donc, est-ce que ça va être. Est-ce qu'on va avoir 10 ou 11 écuries en 2021, c'est à suivre, mais en tout cas, c'est un très beau scoop que racefans.net a déniché quand même. Et ce serait bien d'avoir un peu de nouveaux visages dans l'univers de la Formule 1. Parce que oui, il y a Haas qui est là depuis 2016. Il y a eu les trois nouvelles équipes, comme je disais, Caterham, HRT, Virgin slash Marussia slash Manu. Mais encore là, il faut que ce soit là pour y rester. Et j'espère que l'introduction du cap salarial va être le début de jours nouveaux en Formule 1. Toujours dans le sujet de nouvelle équipe, on va faire maintenant le saut chez nos voisins du sud, aux États-Unis. Puisque je voulais en parler avec Marc-André lors du dernier podcast du bilan de mi-saison, mais McLaren a, disons, surpris l'univers de la course automobile en annonçant son retour en IndyCar à temps plein pour 2020. L'équipe britannique va s'associer avec Arrowsmith Peterson Motorsport et l'équipe sera désormais rebaptisée Arrow McLaren Racing SP. Pour Schmidt-Peterson, et elle va tout simplement miser sur toute l'entité de Arrow SPM. Donc, McLaren va s'occuper de tout ce qui est technique, commercial et marketing. Et on a même annoncé que l'équipe va avoir deux voitures et fera le saut avec des moteurs Chevrolet, puisque en ce moment, Schmidt-Peterson Motorsport roule avec des moteurs Honda. Puis, si vous vous souvenez bien, entre 2015 et 2017, c'était pas un bon mariage entre McLaren et Honda. Donc, c'était quand même. Bon, pour certains, c'est une surprise, mais moi, je l'avais vu venir. Parce que. Souvenez-vous, j'en avais parlé un peu là au mois de mai entre le Grand Prix d'Espagne et de Monaco, mais je pense lors du Grand Prix d'Espagne, McLaren avait le logo de Arrow en plein sur leur voiture, autant en Formule 1 que lors des qualifications des 500 000 d'Indianapolis avec Fernando Alonso cette année. Ça, c'est. Et en plus, avec la rumeur comme quoi McLaren voudrait s'associer avec Schmidt-Peterson Motorsport, que les propriétaires de SPM avaient nié l'information au quotidien IndyStar. Moi, je l'ai su tout de suite que je pense que c'est avec eux. Quand j'ai su la nouvelle, ben là, j'ai pas été surpris du tout. Je pense que je l'ai vu venir. C'est tellement McLaren de faire ça. Mais là, en termes de pilote, on ne sait pas encore. Parce que pour l'instant, Schmidt Peterson Motorsport a James Hinchcliffe et Marcus Ericsson comme pilotes. Mais le problème, c'est que Hinchcliffe est un ambassadeur de Honda au Canada. Et vous le voyez beaucoup dans les publicités à la télévision ou sur les internets, là. Vous voyez beaucoup la face du maire de Hinchtown avec des voitures Honda. Mais là, avec le changement de moteur, ça risque de probablement jouer contre lui. Mais Hinchcliffe a dit que il veut rester avec... il veut rester avec Schmidt Peterson Motorsport, mais il veut participer à l'expérience McLaren. Et Marcus Ericsson, lui, il a un contrat d'un an, donc on ne sait pas encore. Et quant à Robert Wickens, qui, lui, est sur la ligne de touche en train de récupérer de ses blessures subies lors de son terrible accident à Pocono il y a un an de cela, McLaren a dit que ils vont tenir la promesse et que si Wickens est prêt à piloter une voiture de course, ce sera avec McLaren Racing Schmidt Peterson et personne d'autre. Donc la promesse sera tenue, sera respectée. D'ailleurs, petite anecdote, Ericsson devait porter le numéro 6 de Wickens, mais l'équipe a décidé de garder le 6. Seulement à Wickens, quand il sera de retour. Mais bref, c'est une bonne nouvelle pour moi, parce que ça va faire du bien. J'ai dit que on avait besoin d'un nouveau visage, d'une nouvelle équipe en Formule 1. Bon, l'arrivée de McLaren, c'est quelque chose de nouveau, même si ça remplace en quelque sorte une équipe existante. Mais j'ai hâte de voir ce que McLaren a dans le ventre sur une saison complète d'IndyCar. Parce que lors de leurs deux dernières tentatives, il y en a une qui était réussie, une qui était ratée. Ratée, c'était celle de cette année où il y a eu une panoplie d'erreurs et qui ont fait en sorte que Fernando Alonso n'a pas pu participer aux 500 000 d'Indianapolis, alors qu'à sa première tentative en 2017, McLaren s'était associé avec Andretti, qui est une des grosses équipes, et en plus qui avait un moteur Honda, vu que McLaren roulait encore avec Honda en Formule 1, ça a très bien fonctionné jusqu'à ce qu'Alonso décide d'abandonner. Et d'ailleurs, concernant Alonso, ne vous attendez pas vraiment à ce qu'il fasse la saison complète en F1. D'abord, il va probablement, il va participer au Dakar. Il va probablement faire d'autres courses de rallye raid avec Toyota. Donc, je pense que, et même Zak Brown, le PDG de McLaren, a dit que ce sera fort probablement pas possible qu'il fasse la saison complète en IndyCar en 2020, mais peut-être que vous allez voir une troisième voiture McLaren Racing Schmidt Peterson au 500 000 d'Indianapolis au mois de mai, et ça j'ai hâte de le voir aussi, parce que Alonso est toujours à la recherche de cette fameuse victoire aux 500 000 d'Indianapolis pour qu'il puisse devenir le deuxième pilote à compléter la triple couronne. Lui qui a évidemment gagné le Grand Prix de Monaco à deux reprises et les 24 heures du Mans à deux reprises. Rappelons que c'est Graham Hill qui est le seul et unique pilote à réussir cet exploit. Donc, Alonso, ce serait, si on le verrait en IndyCar, ce serait probablement pour les 500 000 d'Indianapolis. Et j'ai oublié de dire aussi que le directeur sportif de l'équipe sera Gilles De Ferrand, qui a été le mentor d'Alonso lors de sa première participation au Indy 500, mais qui a été aussi le directeur sportif de McLaren en remplacement d'Éric Boullier l'année passée, lorsque ce dernier a décidé de quitter l'équipe. Mais surtout, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'IndyCar, lui qui a été champion de la série et qui a même gagné les 500 000 d'Indianapolis. Alors, avoir une tête de course comme Gilles de Ferrand, que j'ai beaucoup apprécié durant ma jeunesse, ça va aider en fait l'équipe qui veut en fait se battre avec les Andretti, Chip Ganassi, Penske entre autres. Donc, on va voir ce que ça va donner pour 2020, mais je suis vraiment content de voir McLaren tenter leur chance ailleurs, même si on sait que ça ne va pas vraiment perturber leur programme actuel en Formule 1. Je ne sais pas s'ils vont tenter leur chance en endurance, parce qu'il y a les nouvelles règles techniques concernant les voitures de prototype pour les prochaines années. Donc, si McLaren veut faire un retour en endurance, ce serait super, parce que McLaren a gagné les 24 heures du Mans 95 avec un moteur BMW. Donc, l'équipe de Woking en F1, en IndyCar et en Endurance, ce serait vraiment bien. Et pour terminer, on va parler des marchés des transferts. Parce qu'actuellement, comme on l'appelle en Formule 1, c'est la saison folle. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs de transferts de pilotes, de tout personnel aussi, mais principalement des pilotes. Et cette année, ben, ça a été un peu tranquille. Et là, ça commencera à s'activer depuis quelques jours. Il faut d'abord rappeler qu'il y a eu un mouvement déjà confirmé et même effectif dès le Grand Prix de Belgique. C'est l'échange de baquets entre membres de la famille Red Bull. Pierre Gasly va retourner chez Toro Rosso et Alexander Albon s'en va, lui, chez Red Bull. C'est une promotion, en fait, qu'il a. Ça, c'est confirmé. Mais là, depuis quelques jours, il y a une rumeur qui sort dans plusieurs médias, autant allemands que français et même finlandais. Vous allez comprendre pourquoi. Chez Mercedes, on aurait déjà fait le choix pour 2020. On sait déjà que Lewis Hamilton, c'est pas mal confirmé qu'il va revenir avec l'équipe étoilée pour la prochaine saison. Mais selon plusieurs médias allemands, Toto Wolff aurait fait le choix de garder Valtteri Bottas pour une autre saison au lieu de donner une chance à Esteban Ocon, qui est sur les lignes de côté et même pilote réserve de Mercedes pour la saison 2019. Selon les mêmes médias allemands, il se pourrait que Ocon ait déjà un volant en Formule 1 pour 2020 et ce serait chez Renault. Pour combien? 2 saisons à la place de Nico Hülkenberg. Mais RMC Sport, la radio française, elle est un peu plus prudente puisque la marque française aurait bel et bien proposé un contrat à Ocon, mais il n'y a eu aucune décision prise à l'instant même. Donc, comme je dis, Ocon pourrait remplacer Nico Hülkenberg qui lui est en fin de contrat cette saison. Et en plus de cela, le salaire d'Hülkenberg est beaucoup plus élevé que celui qu'on proposerait à Ocon. Et surtout parce que Renault, il ne faut pas oublier, a signé Daniel Ricciardo pour plusieurs millions de dollars. Donc, avec Hülkenberg qui est un excellent pilote, il faut le rappeler, mais qui a un salaire élevé, signer un jeune pilote comme Ocon serait une excellente opération financière. Mais où irait Hülkenberg? Hülkenberg, selon Autobild, il pourrait se retrouver chez Haas, à la place de Romain Grosjean. Donc, on aurait un duo Hülkenberg et Magnussen qui ne se parle presque pas depuis 2 ans, depuis le fameux incident du Grand Prix d'Hongrie 2017, où, disons, il y a eu une bataille en piste entre Hülkenberg et Magnussen. Magnussen pousse Hülkenberg hors piste. Hülkenberg, après la course, pas très content, va interrompre l'entrevue de Magnussen, puis ce dernier lui répond avec le fameux « suck my balls ». Ce qui a irrité Hülkenberg, et depuis, les deux ne se parlent presque pas, mais là, il pourrait se retrouver coéquipier chez Haas. Est-ce que ce serait coulé dans le béton? Non. Mais peut-être que ce serait un bon moyen pour les deux de enterrer l'âge de guerre si la rumeur devait être vraie. Et cela est un duo Hülkenberg-Magnussen en 2020 signifierait aussi la fin des émissions pour Romain Grosjean en Formule 1, puisque selon quelques médias français, Grosjean pourrait se retrouver en Formule E à la place de André Lotterer, qui lui va courir chez Porsche pour la saison 2019-2020. Grosjean pourrait se retrouver chez DS Techita aux côtés du champion en titre de la série, ou devrais-je dire double champion de la série, Jean-Éric Vergne. Alors ce serait pour plusieurs personnes une très bonne nouvelle de voir Ocon arriver en Formule 1, revenir en Formule 1, surtout qu'il a perdu son volant aux dépens de Lance Stroll, qui a profité du rachat de Force India par le consortium mené par Lawrence Stroll pour devenir Racing Point, et qui a fait en sorte que Stroll a un volant F1 et qu'Ocon lui est sur la ligne de touche. Et Ocon pourrait revenir en Formule 1 pour deux saisons avec une équipe française. Donc, ce serait le meilleur des mondes, en fait. Autant pour Ocon que pour Renault. Parce que Ocon va avoir finalement un volant avec une bonne équipe. Et je dis pas que Force India, c'était une mauvaise équipe. Mais au moins, il est chez un autre constructeur local, en plus. Et Renault va sauver de l'argent parce que attirer un pilote comme Daniel Ricciardo, ça prend beaucoup d'argent. Bref, c'est la rumeur principale qui circule en Formule 1. Si vous voyez une rumeur comme quoi Vettel n'est pas content du développement de Ferrari et qu'il voudrait retourner chez Red Bull, que c'est une possibilité, ne croyez pas vraiment à cela. C'est juste de la spéculation, en fait. C'est de la pure spéculation, mais celle de Ocon avec Renault, ce serait fort probable, surtout que Ocon avait déjà été proposé par Mercedes à Renault. Cyril Abiteboul, le directeur de Renault, avait dit OK, mais finalement a décidé d'opter pour Ricardo. Donc cette fois-ci, la deuxième fois est la bonne pour Ocon qui va revenir en F1. Et il faut pas oublier que Ocon avait fait quelques tests avec Lotus, qui était l'équipe précédemment de Renault. Donc, il connaît bien l'environnement. Alors, Ocon, ce sera surveillé, en fait. Et certains pensent que Mercedes devrait annoncer leur alignement de 2020 d'ici la semaine prochaine. Donc, ça, ce serait à surveiller. C'est ce qui complète l'épisode 18 du Bulletin F1. Un épisode pas mal court comparé aux autres. Mais on va revenir la semaine prochaine, évidemment, pour le Grand Prix de Belgique. Avec Marc-André et Brian. Mais entre-temps, si vous voulez écouter les anciens épisodes, vous pouvez le faire sur vos plateformes préférées. Nous sommes sur Spotify, Apple Music, Google Play, Stitcher, TuneIn, entre autres. Évidemment, le podcast va se retrouver sur notre site bulletinf1.com, ainsi que les chroniques, les bulletins de notes et les avant-courses de chaque Grand Prix sur notre site officiel. Vous pouvez participer aussi à la conversation sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter @lebulletinf1 ou sur facebook.com/bulletinf1. Évidemment, on a besoin de vos commentaires, de vos feedbacks pour qu'on puisse améliorer le contenu du podcast ou le contenu technique aussi, ou ou aussi contribuer au débat. Si vous voulez nous proposer des sujets, on est toujours libre aussi. Donc, si vous voulez le faire, sentez-vous libre. On veut aussi votre participation. Je vous rappelle que si vous faites le saut, si vous voyez qu'on a fait le saut entre l'épisode 16 et 18, c'est tout à fait normal. C'est parce que l'épisode 17 sera consacré à Jules Bianchi, mais on va l'enregistrer dans les prochaines semaines parce qu'on veut faire un épisode digne de ce nom. Alors, on va vous aviser en temps et lieu lorsque on va publier l'épisode spécial Jules Bianchi, donc l'épisode numéro 17. Mais entre-temps, nous allons préparer l'épisode 19, qui sera en retour sur le Grand Prix de Belgique. On va parler aussi de l'actualité de la course automobile. Alors, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je suis votre animateur Abdoussal. Et on continue toujours de rouler avec le bulletin F1. Merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine.